Voilà, eh bien, on a un bon temps de louange. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, qu'on va retrouver dans le message. Juste quelques annonces. Hier, nous étions à l'Assemblée générale du CNEF 68 avec Denis Boucher qui représentait Caleb, et puis moi-même, Josué et l'établissement Daniel. Et donc, nous avons été, c'était au Liberty Planète, voilà. Et ça a été un bon temps avec le directeur de la communication du CNEF, Monsieur Le Gall. Et en particulier, une annonce qui est déjà notée dans les agendas, c'est que le 25 septembre, à Colmar, au Parc des Expositions, il y a un culte en commun avec toutes les églises du département Haut-Rhin. Et donc le 25 septembre, la fête de l'Évangile. Et donc on vous donnera plus de précisions par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'ici on annulera le culte pour être tous au niveau de Colmar. Il y a vraiment une dynamique fraternelle qui est belle, qui est importante et qui est en croissance. Donc voilà, ça c'est vraiment encourageant. Et la dynamique CNEF, il y a dans le département, vous avez plusieurs pôles CNEF. Il y a le CNEF départemental, mais il y a aussi le CNEF Mulhouse, avec les activités particulières comme barbecue géant, etc. Il y a le CNEF Saint-Louis, il y a le CNEF Münster, il y aura bientôt le CNEF Colmar. Voilà, à Guebwiller, ce n'est pas le cas, nous sommes la seule église membre du CNEF. Nous travaillons avec les autres églises, mais pas dans ce cadre-là. Voilà, donc oui, donc la semaine prochaine, c'est un séminaire de 3 jours en Belgique pour encourager ce qui se fait déjà, mais accompagner la création d'un projet d'école qui s'appellera Les Papillons. Un beau nom d'école. Donc le but, c'est toucher les églises qui seront rassemblées. Voilà. Pour aujourd'hui, en priant, vous savez que nous sommes. C'est le temps de Pessard. Hein, alors je sais, la Pâque chrétienne, entre guillemets, a été fêtée il y a quelque temps, mais aujourd'hui, en ce moment, c'est la semaine de Pessard, de Pâques, et en priant pour aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais amener. Vous allez voir, plusieurs choses ont été dites là-dessus, et j'aimerais on prend comme base le texte de Exode, Exode 12, 1 et 12, 14. Et j'aimerais relever plusieurs points qui m'ont touché, je crois qui sont pertinents pour aujourd'hui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Donc j'ai sauté un peu un passage, hein. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de place, de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Et un peu plus loin, 14, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous sommes dans le thème de l'année qu'on avait reçu, c'est le thème de l'honneur. Et en fait, la célébration des fêtes fait partie d'une façon, d'une manière d'honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est célébrer ses fêtes. Et nous ne voulons pas opposer les fêtes chrétiennes aux fêtes juives. Nous croyons qu'il y a une place pour chacun. Mais en tout cas, nous voulons nous greffer à ce que le Seigneur a dit. Et que cette fête de Pessard, c'est la racine de notre fête, de la résurrection et de tout le message. Et c'est là ce qu'on veut apporter. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit, 1 Corinthiens 5, Christ, notre Pâque, sans S, hein, c'est la Pâque juive, a été manifestée. Donc c'est pour ça que revenir dans l'Ancien Testament et voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui est important. Une petite introduction sur le mot fête, et je l'ai déjà dit ici il y a quelques années, mais c'est un rappel. Le mot fête, c'est un mot extraordinaire. En hébreu, c'est un mot. Il y a plusieurs mots, d'ailleurs, qu'on traduit par le seul mot fête. Mais la première signification, c'est que c'est le mot rendez-vous. Hein, c'est comme un rendez-vous d'amour. Quand, par exemple, Timothée a un rendez-vous, eh bien voilà, ça s'appelle le moed. C'est le mot moed. Et donc, ces rendez-vous, Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil, pour qu'on puisse fixer des rendez-vous. Le but de l'ordre astronomique, c'est qu'il y ait des rendez-vous. Ça, c'est vraiment important. Et donc, la Bible dit, Hein, dans Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours de l'année. Et plus loin, l'Éternel parle à Moïse, au Lévitique, il parle aux enfants d'Israël, et il leur dit, vous publierez selon les saintes convocations, voici quelles sont mes fêtes. Et le mot Moed, c'est le mot époque, c'est ces rendez-vous divins. Donc Pâques, la Pessar, c'est vraiment un rendez-vous divin que le Seigneur veut se réjouir avec son peuple. Parce que c'est un Dieu de relations. Donc les fêtes sont là pour les relations, pour développer ses relations avec le Seigneur, faciliter ses rencontres. Donc ça, c'est le premier terme, Moed. Et c'est intéressant parce que le soleil, qui est la source de la lumière, vous avez le soleil et la lune, hein, et la lune, elle réfléchit la lumière. Et le soleil, c'est cette image, soleil de justice, de Jésus, et la lune est l'image de l'Église, qui n'a pas la lumière en elle-même, mais qui la reflète dans les ténèbres et dans les nuits. Et donc nous avons tout ici, la création elle-même parle des plans de Dieu, et nous voyons ici, nous sommes sa lune, si vous voulez. Nous sommes la lune du Seigneur, et appelés à fixer les rendez-vous et à célébrer le Seigneur. Vous avez aussi l'autre terme, c'est le mot Chag, et il n'y a pas de fête en Israël sans sacrifice. Donc c'est d'ailleurs pourquoi le sacrifice suprême, Jésus, c'est le sacrifice de Pâques, et ça va dans toute la tradition. Il n'y a pas de fête sans sacrifice. C'est pour ça que quand nous fêtons Pâques, ou que nous célébrons le Seigneur dans des cultes, etc., nous offrons aussi un sacrifice. Et ce n'est plus des animaux, puisque le sacrifice parfait, ça a été Jésus. Mais les sacrifices qu'on offre, c'est les sacrifices de louange. Et ce matin, c'était un sacrifice de louange. Donc quand on vient, on fait la fête à Dieu. Le culte, c'est une fête en l'honneur de Dieu. Et cette fête est toujours autour d'un sacrifice. Il y en a un seul. C'est le sacrifice de Jésus. Donc il est dit par exemple de Deutéronome 16, « Tu ne paraîtras point à vide devant ma face. » Et en fait, ne pas venir à vide, c'est venir... On n'a rien qu'on peut vraiment donner à Dieu, sinon notre louange. Ce n'est pas nos œuvres. On ne vient pas avec nos œuvres. On ne vient pas avec notre obéissance. On vient avec notre louange et son obéissance à lui. Et donc voilà, ça c'est l'histoire du sacrifice qui est au cœur de la fête de Pâques. Bien sûr, il n'y a pas de Pâques sans cette commémoration du sacrifice. Hébreux 9, il y a ce merveilleux texte qui parle du Christ et qui nous dit, verset 11, « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. » Ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue pour ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc là, on a cette image de le sacrifice qui est fait pour qu'on serve. Pour qu'on serve à sa gloire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans toute la symbolique de Pâques. C'est-à-dire que quand Moïse dit à Pharaon, laisse-nous partir, c'est pourquoi le but ? On veut servir Dieu. On veut le servir. Et donc la Pâque, c'est la libération. Pourquoi ? Pour le servir. Hein ? Donc le message de Pâques, la résurrection, c'est pas seulement super, il m'a sauvé, mais il a fait ce passage. Il a percé le tabernacle, il est entré dans la présence du Père pour qu'on puisse le servir. Donc avec le don de Christ, le don de Dieu pour nous, c'est Jésus, et le cœur de toute fête, c'est Jésus. Donc on ne fête pas des fêtes pour fêter des fêtes, on fête les fêtes pour célébrer celui qui est au cœur de toute fête, et de tout le monde, et de toute la création. Donc c'est ça l'idée. 2 Corinthiens 5, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons, si un seul est mort pour nous tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc le message de Pâques, c'est ça. Il est mort et ressuscité pour qu'on ne vive plus pour nous-mêmes. C'est un message qui est un peu hard, hein, quelque part. On n'est pas là pour vivre pour nous-mêmes, mais on est là pour vivre pour lui. Et le sacrifice de reconnaissance qu'on offre à Dieu, c'est cette compréhension eh bien que ben qu'il est Seigneur et qu'il nous a donné cette vocation de le célébrer. Et le troisième sens du mot fête, c'est bien sûr le mot célébration. Le mot fête dans le sens qu'on connaît encore aujourd'hui, et on le trouve plusieurs fois dans les Écritures, mais cette célébration, c'est une célébration intense, c'est cette célébration un peu comme Myriam à la sortie de la mer Rouge qui exulte et tout le peuple qui danse. Et c'est pourquoi l'Église danse aujourd'hui, parce qu'il y a cette conscience de l'œuvre de Jésus, mort et résurrection. Alors voyez, cette notion de célébration, c'est une fête en l'honneur de Dieu. Et il y a aussi un dernier sens, et ça parle de Pâques aussi. Et ça, nous sommes très forts en Gaule, parce que nous l'avons compris depuis Astérix. C'est-à-dire que le festin est important dans la culture. Et donc, du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, il y a cette notion de fête et de festin. Et le premier miracle que Jésus a fait, c'est justement pendant les noces, pour un festin de mariage, pour montrer que la destinée, c'était le festin de la victoire. Et toutes les fêtes annoncent un festin qui est pas seulement un festin qu'on vivra plus tard, mais qui est un festin dans lequel on peut déjà goûter aujourd'hui. Et cette pénétration, la Pâque, c'est la pénétration du royaume de Dieu aujourd'hui dans le monde présent maintenant. Et dans cette pénétration de ce monde, il y a ce festin. Et on voit, par exemple, dans le livre de Néhémie, quand tout le monde était un peu abattu, convaincu de péché par rapport à la sainteté de Dieu, et il leur dit, mais non, ce n'est pas le moment de se lamenter, c'est le moment de faire la fête, de se réjouir. Donc cette notion du festin est importante. Ésaïe 25, regardez le mot qu'on trouve avec cette idée de festin pour fête, il est là, écoutez ça. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin. Et là, c'est le mot fête dans ce cadre du festin, de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc ce festin, il est là. Quand on était dans la louange ce matin, c'est une façon de goûter au festin. Il y a quelque chose, la présence de Dieu, c'est le festin du chrétien. C'est le mets succulent. C'est cette présence de l'Esprit, cette présence du Seigneur. Donc, le festin. Alors, nous, Gaulois, ne nous privons pas des festins, festins des bénédictions spirituelles acquises par Jésus. Donc, ça, c'est juste nous rappeler, dans cette fête de Pâques, il y a le mot fête. Et ce mot fête, c'est tout ça. C'est tout ça, le mot fête. Alors maintenant, Christ, notre Pâque. On a lu tout à l'heure, et ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est deux, trois points qui ne sont pas soulignés fréquemment dans les messages de Pâques, de la signification. Et j'aimerais le souligner. Vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu, Dieu qui prépare, il instaure cette commémoration, il prépare le peuple à se lever pour sortir d'Égypte. Mais regardez la stratégie. Dieu parle, donc, et il dit, voilà, vous allez vous réunir dans chaque famille, dans chaque maison. Et moi, ce qui m'a touché, c'est le mot maison, famille. Parce que la stratégie de Dieu, les stratégies de libération de la terre de Dieu, commencent toujours dans des maisons. Ça commence toujours dans des maisons. Et c'est là la Pâque, on voit toujours la traversée de la mer Rouge, etc. Mais ça a commencé dans les maisons. Et la maison, il n'y a pas de fête de Pâques sans signification de qu'est-ce que c'est ces maisons, ces maisonnées, ces familles où l'on mange l'agneau. Et la maison pour Dieu, c'est capital. Et c'est capital parce que déjà, le mot bet, qui est le mot hébraïque maison, comme par hasard, c'est la première lettre de toute la Bible. C'est par hasard. La Bible, c'est l'histoire d'une maison. C'est l'histoire de la maison de Dieu qui veut grandir au point que toute la terre, qui est déjà sa maison, le devienne pleinement. La Bible, c'est l'histoire d'un jardin, cette maison de Dieu, qui doit remplir toute la terre pour que toute la terre soit habitable et remplie de sa présence. C'est une maison expansive, si vous voulez. Mais ça commence toujours par des maisons. Et on voit que dans ces maisons, ils ont célébré, ils ont mangé cet agneau, et vous avez cette notion de famille. Il est dit, même si vous êtes en trop petit nombre, vous invitez les autres, les voisins, et vous allez mettre le sang sur les portes. Et ça, c'était les pères qui le faisaient. Le samedi dernier, je n'étais pas là, mais il y a eu un temps avec les hommes en particulier. Et ce temps, les pères étaient ceux qui ont mis le sang sur les linteaux. Ils ont appliqué ce sang. Et il y a cette notion d'un ordre qui est là, d'un peuple qui se lève, mais des familles qui se lèvent. Donc le peuple de Dieu, c'est jamais en dehors d'un esprit de famille. Donc voilà. Alors ensuite, on voit au niveau de la notion de maison, j'aimerais dire plusieurs choses. Vous avez la lettre elle-même, on l'a déjà dit ici, c'est un carré, mais qui est pas complété, quoi. Il y a comme une ouverture. Et au milieu, vous avez un point. Donc c'est comme ça, avec un point au milieu. Ça nous parle de l'abri, un abri, parce que vous avez au-dessus, derrière, dessous, mais c'est ouvert. Un abri ouvert. Les maisons de Dieu, c'est toujours ouvert. C'est jamais fermé, les maisons de Dieu. Hein? Ça donne la sécurité, mais c'est pas fermé. Et vous avez ce point, il y en a qui pensent que ça nous parle de cette présence de Dieu. Mais vous avez, par exemple, toutes les maisons, vous avez le terme Beth-Sépher. Beth-Sépher, dans la Bible, c'est les maisons du livre. Parce que Dieu n'a pas prévu d'éducation en dehors des maisons. La maison de la famille de Dieu. Et l'esprit de Babylone, c'est l'esprit qui dit que les enfants, ils doivent apprendre en dehors des maisons et des familles. Et Dieu nous dit dans Pâques, je veux des maisons. On applique le sang. Et les démarrages du peuple qui sort pour sortir de l'esclavage, ça sera toujours dans des maisons. C'est pour ça que Dieu est en train de rétablir des maisons. Et ces maisons, ce n'est pas seulement les maisons de Dieu qui sont les églises, par exemple, mais c'est les maisons du livre qui sont les écoles. Ce sont les maisons de prière qui, comme par hasard, sont en train de remplir les nations. Et comme par hasard, cette restauration des maisons de prière, ça va avec les restaurations des maisons du livre et des maisons de Dieu. Dieu est en train de restaurer sa maison. Et le but, c'est, si vous voulez, c'est que ce peuple, il était appelé le peuple d'esclaves. Il était appelé à être une lumière pour toutes les nations. C'est l'idée de Dieu de faire de toutes les nations sa maison. Et dès avant Pâques, vous avez tout de suite l'idée de la transmission. C'est-à-dire que Dieu dit tout de suite, avant même qu'ils sortent d'Égypte, Dieu pose le statut de la transmission. Il dit, voilà, vous allez dans les maisons, vous allez fêter cette Pâques, et déjà dans les futures générations, voilà ce que vous allez faire. Quand vos enfants vous poseront la question, vous allez transmettre, etc. Donc la transmission, il n'y a pas de libération de l'esclavage sans une stratégie de transmission par rapport aux générations, entre les générations. Et nous avons ce rôle, quand on parle de maison, on parle de famille. Tout à l'heure, la parole qui était donnée par Émilie, « Seigneur, mais comment tu vas lever des fils et des filles ?» Ben, en envoyant des pères et des mères. Et la Pâque est directement liée avec la notion de père. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, la Pâque, ça veut dire passage. Pessar, c'est passage. Hein ? Donc le passage de quoi ? Vous savez que le mot père, notre mot français père, ça vient d'un mot latin, alors vous n'avez pas terre, mais vous avez pontifex. Et le pontifex, le père de famille, si vous voulez, ça veut dire le pont, celui qui est le pont. Et ce pont-là, c'est le pont entre le présent et l'avenir. Le père, si vous voulez, c'est celui qui donne la destinée. C'est celui qui fait le pont entre notre père dans le ciel, a fait le pont entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel. Et cette notion du père, c'est celui qui réconcilie toutes ces choses avec lui-même. Donc le père, d'ailleurs le père romain, vous savez que quand l'enfant avait jusqu'à 8 ans, jusqu'à 8 jours, il n'était pas forcément reconnu par le père. Et s'il n'était pas reconnu, eh bien, il ne valait rien. Il pouvait être même tué, etc. Mais le père faisait un geste particulier. Le père, dans la tradition romaine, pas biblique, attention, mais c'est quand même intéressant. Quand il reconnaissait l'enfant, vous savez ce qu'il faisait ? Le pontifex, il prenait l'enfant, Il le prenait dans ses bras et il l'élevait, comme ça. Il l'élevait. Comme font tous les papas d'ailleurs. Il y a cette maladie des papas de toujours prendre les enfants et ils les font sauter comme ça. Et il y a la maladie des mamans qui dit mais arrête, arrête, arrête. Mais le papa, il ne peut pas s'empêcher de le. Hein? C'est incroyable. Il y a quelque chose dans l'ADN de lever les enfants et de les faire sauter comme ça. Et les rattraper, bien sûr. Donc, le père, il élève. D'ailleurs, j'aime bien ce jeu de mots parce que le mot français des élèves, hein, ça parle d'élever une génération. Vers qui, hein? Les élèves, c'est quoi les élèves? Ben, les élèves vers Dieu. Donc, c'est comme Abraham, le père des nations. Pour qu'ils deviennent père, vous avez remarqué ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Il a élargi immédiatement le champ de vision. Pour être un père, il faut avoir le champ de vision large. Et quand il élève l'enfant, il dit, c'est comme s'il lui disait, regarde le champ de vision, regarde les étoiles, regarde le sable, ça c'est ton héritage. Donc cette notion de maison, vous voyez, de faire des fils et des filles, et que le père il plaque le sang, etc. Et tout ça, toute cette dynamique de faire le pont entre le fameux pont que Dieu a fait au passage de la mer Rouge, entre une terre d'esclaves et une terre promise, ça c'est la Pâque. La Pâque nous parle de ce pont. La Pâque nous parle de ce passage. La Pâque nous parle de... Mais tout commence, vous voyez, par une maison. Et tout finit par une maison. Parce que quand Jésus... Le désir de Dieu, c'est quoi? Ésaïe 11, regardez. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les cieux qui le couvrent. Donc on voit le cœur de Dieu, c'est de remplir cette connaissance qu'on a chantée tout à l'heure. Je veux te connaître, Seigneur. Cette connaissance, il veut la remplir, la terre. Et il veut nous utiliser, chacun d'entre nous, pour remplir cette terre de la connaissance. C'était la mission de ce peuple d'esclaves, de remplir la terre de la connaissance de Dieu. Et pour ça, il a fallu la Pâque. Donc la Pâque, c'est ce passage pour que d'un agglomérat d'individus, esclaves, petite mentalité, mentalité de perdu, de perdant, quoi, eh bien Dieu en fasse un peuple qui va être une lumière pour les nations. Et on va retrouver ça avec Jésus. Lorsque, à Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? À la Pessah, au moment où on sacrifiait les agneaux, l'agneau de Dieu est mort, Jésus, transpercé, et la Bible dit que de son côté percé, donc le sang et l'eau ont coulé, mais c'est là qu'est née l'Église. De la même façon que du côté percé d'Adam, l'épouse a été prise, du côté percé de Jésus, l'Église est née. Et donc, cette Église-là, elle est appelée à être une maison, de nouveau. Et quand Jésus, par exemple, dit « la maison de mon Père », Jean 2, lorsqu'il dit « doit être une maison de prière pour tous les peuples hein, », lorsqu'il parle, on parle de la maison de Dieu. Dans Éphésiens 2, regardez, magnifique texte. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des Égyptiens, des gens de l'Égypte, vous n'êtes plus des esclaves, hein, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison ». Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et là, c'est là qu'on voit que la notion de maison, c'est quelque chose d'ordonné. Le peuple d'Israël en Égypte n'était pas ordonné. Ils ont eu du mal même à vouloir un chef, hein. Donc c'était la panique, quoi. Et c'est intéressant de voir qu'en une génération, tout d'un coup, il y a eu de l'ordre. Incroyable. Quand ça arrive au temps de Josué, il y avait chaque tribu sous une bannière, chacun ordonné. Vous avez le tabernacle, chaque tribu disposée. Un camp militaire, si vous voulez. C'est un ordre. Et tout ça, c'était nécessaire pour rentrer dans la terre promise. Donc voyez, cette notion de maison m'a beaucoup touché dans ce début d'histoire de Pâques, mais qui annonce le projet de Dieu, qui est toujours un projet de maison. Le christianisme n'est pas individuel. Dieu m'a dit, bon c'est bien, mais Dieu nous dit, c'est mieux. D'accord ? Dieu m'a dit, on peut lui faire dire beaucoup de choses. mais Dieu nous dit. Quand l'apôtre Paul dit « nous avons la pensée de Christ », il n'a pas dit « j'ai la pensée de Christ ». Il a dit « nous avons la pensée de Christ ». Ça, ça parle de maison, de peuple, voyez. Ensemble, on entend Dieu ensemble. On se soumet les uns aux autres, on discerne ses paroles ensemble. Et donc, je crois qu'on est dans une période, alors ce n'est pas la période de Pessah seulement, mais en tant qu'Église dans le monde, on est dans une période de passage. De passage d'une mentalité d'esclave à une mentalité eh bien, d'héritier. Donc, maintenant le passage. Donc, Israël sort d'Égypte, il passe par la mer Rouge, il y a la célébration, la danse et tout ça. Et c'était quoi le plan de Dieu pour Pâques ? Eh bien, le plan de Dieu, c'est Osée 2,14, écoutez ça. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Il comparait Israël à une femme. Je veux la conduire dans le désert. Pourquoi ? Parce que là, je vais parler à son cœur. Et là, je lui donnerai les signes de la vallée, les vignes de la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est quoi la différence entre un mari et un maître ? C'est qu'un mari, on le connaît, au sens qui a été dit tout à l'heure, yada, au sens d'une connaissance intime. Et le maître, on ne le connaît pas de cette façon. Et donc, Dieu a conduit le passage, c'était pour qu'il connaisse son cœur. Et je crois que le cœur à cœur, les maisons de prière et tout ça, c'est des cordages que Dieu attire pour qu'on vienne à lui, qu'on rencontre son cœur. Donc voilà, il n'y a pas de terre promise possible sans un cœur à cœur, d'abord, avec Dieu. Et ce cœur à cœur, c'était dans le désert. Il fallait enlever un petit peu, peut-être, je ne sais pas moi, tout ce qui distrayait, tout ce qui empêchait de voir. Et ça a été une école, le désert. Ça a été une école. Et cette école, ça a été une école extraordinaire. Regardez Deutéronome 32. Dieu l'a trouvé dans une contrée déserte, il parle de son peuple, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, son peuple. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. L'Éternel seul conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Et là, vous avez une magnifique image qui est dans le contenu de Pessah. C'est-à-dire que c'est Dieu qui conduit son peuple. Et Pessah nous parle de ça. Et ce n'est pas étonnant, et j'en mets une couche là, que le mot éducation soit né dans les Écritures, dans la parabole de l'évangile de Jean sur le bon berger, lorsque Dieu dit « Il conduit ses brebis, éduquite, il les conduit. » Dieu lui-même veut conduire son peuple. Et Pessah aujourd'hui nous dit « Ça suffit de se laisser conduire par autre chose que Dieu. » Au niveau de cette génération, au niveau de nous en tant qu'individus, en tant que famille, Pessah, c'est Dieu qui dit « C'est moi qui conduis. » Et il nous conduit pourquoi ? Cette école du désert, c'était pour les préparer à hériter. Et cette préparation, ça a mis du temps. Et cette préparation s'est faite avec le don de la loi, la Torah. Et cette loi, parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer dans cet héritage sans avoir reçu cette parole. Et la Pentecôte, ça va être la célébration de ce don de la Torah. Et comme par hasard, c'est aussi le moment que Dieu a choisi pour libérer son esprit. Parce que la parole avec l'esprit, ça fait quoi ? Ça fait des héritiers. La parole avec l'esprit, ça fait des gens qui rentrent dans les terres promises que Dieu a pour eux. Donc voilà, ça c'est cette école du désert a été un succès. Je lis, il y a eu des échecs qui n'étaient pas dus au Seigneur lui-même, hein, c'était plutôt aux élèves. Hein. Et l'orgueil, l'autosuffisance constituaient les obstacles majeurs à tous ces progrès de faire ce peuple, hein, de se faire de ce peuple un peuple saint. Et cette instruction qui a été reçue au Sinaï, ces processus, ça a fait de ce peuple un peuple prêt. La base était posée, le fondement était posé pour que ce peuple puisse rentrer dans l'héritage. Et donc on voit la même chose lorsque Paul a été pris, chopé par Jésus sur le chemin de Damas, eh bien, Dieu lui dit, regardez ça, je l'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, et vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, donc c'est l'image de l'Exode, hein, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, un, le pardon des péchés, deux, l'héritage avec les sanctifiés. Donc l'apôtre Paul, quand il a été touché par Dieu, la première chose qu'il a faite, il est parti dans le désert. Lui aussi. C'est quand même étonnant. Il aurait pu témoigner de Jésus tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Il a passé des années en Arabie. Et ça, c'est la vision de l'Église primitive. Quand on est touché par Dieu, on laisse tout, on se met à part jusqu'à ce qu'il nous transforme. Ensuite, on revient. Les plus grands évangélistes de l'Église primitive, avec dons, signes, prodiges, miracles, sont sortis des déserts. Et c'est dans les déserts qu'a été formée la première Église, dans les déserts. Et ça, cette tradition, elle était là, et Paul l'a vécue. Mais le désert, on peut le prendre au sens figuré. Le désert, c'est se laisser toucher par le cœur de Dieu et toucher son cœur, en dehors des distractions qui peuvent nous embêter. Donc la Pâque, la célébration de la résurrection de Jésus, si vous voulez, ce n'est pas un événement qui est une fin, c'est un début. C'est la porte d'entrée du royaume. Autre idée par rapport à Pâques et à la Pessah juive, c'est que Dieu a promis à ce peuple d'hériter une terre. Et nous, en tant que chrétiens, ce qu'on a fait, c'est qu'on a spiritualisé le texte. On a dit, oui, mais Canaan, ça nous parle du ciel. Ça nous parle qu'un jour, on sera avec des anges joufflus, fessus, avec des harpes d'or, et on va chanter et danser, flottant dans les nuages, incorporel, vous voyez. Voilà. Et cette image-là, elle est fausse. Et la Pessah, c'est toujours aujourd'hui le message que Dieu a une terre pour son peuple. Une vraie terre. Et parce que cette terre, regardez, c'est un rappel, hein, Genèse 14, 19, 22, il bénit Abraham, il dit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. La révélation du Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre, déjà au tout début de la Genèse, hein, pas seulement le Dieu du ciel, mais de la terre. Proverbe 8, regardez ça, il est dit, lorsqu'il donna une limite à la mer, il parle de Dieu, hein, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Il s'agit du Christ créateur qui était là à la création même et qui jouait. La création s'est faite, j'aimerais vous rappeler, dans un immense jeu. C'était un jeu avec des lumières, feux d'artifice, ça éclate. C'était ça. La Bible traduit ça. La création, c'était un festival de couleurs et de lumière, et le Christ était au centre. Mais la terre lui appartient. Exode 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous n'appartiendrez pas, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et donc, cette idée que la terre est à Dieu, ça, c'est quelque chose qui a été volé dans l'histoire de l'Église, à un moment. En particulier au Moyen-Âge, on a spiritualisé les choses, etc. Et on s'est désolidarisé d'une vision hébraïque beaucoup plus terre à terre, c'est le cas de le dire. Hein. Et alors, la terre lui appartient. Dieu est le seul juge de la terre. Dieu est le roi sur toute la terre. Psaume 47, par exemple, l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Sa gloire, elle recouvrira quoi ? Toute la terre. Ce qu'on a lu tout à l'heure, tiens, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il adore Dieu. L'adoration, qu'est-ce que ça lui a donné ? Il se sent impur. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, toute la terre est remplie de ta gloire. Dans l'adoration, on voit comme Dieu voit. En dehors de l'adoration, on va dire, la terre, oh là là, elle est pourrie. Elle est malade, elle est blessée, il n'y a que des problèmes. Et quand on commence à adorer, on commence à voir comme Dieu voit. Et on voit sa gloire. Et cette gloire-là, un peu cachée, qui demande une révélation, c'est une gloire qui est en avance, qui veut avancer et qui veut remplir toute la terre. Et cette gloire, ça nous parle de relation. Cette gloire, ça nous parle de présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle est là où chaque chrétien se trouve. Et donc la Bible dit qu'il couvrira la terre, elle est déjà couverte quelque part, il remplira les cieux et la terre, et Jérémie 23, etc. Donc cet héritage qui est donné au peuple, eh bien c'est aujourd'hui, c'est la même chose. Et je rappelle ce qu'on a souvent répété ici, c'est que l'héritage d'Abraham, du chrétien, c'est pas le ciel, c'est la terre. J'aimerais rappeler ça. Romains nous dit l'héritage d'Abraham, c'est l'héritage de la terre. Donc ce rôle, notre rôle, le rôle du peuple d'Israël en sortant, c'était la mission de Genèse. C'est-à-dire, vous allez dominer la terre. C'est cette mission-là. Et quand Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il va redonner? Le mandat du départ. Dominer la terre, il va le dire autrement, il va dire enseignez les nations, faites-en des disciples, ça veut dire dominer. Et dominer, c'est encore, on retrouve dans le mot latin le mot maison. C'est-à-dire que la terre, c'est sa maison. Et les marchands du temple, ils voulaient chasser de cette terre. Et quand on voit, par exemple, dans des passages dans les Écritures qui parlent de combats spirituels, comme Éphésiens 6, par exemple, on connaît bien, hein, « Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. » Il s'agit de principautés qui correspondent à des territoires. C'est des territoires. Hein. C'est pas de la fumée. C'est des zones géographiques, des territoires dans lesquels il y a une bataille. Et un grand lettré, un homme de lettres qui s'appelait C.S. Lewis, un grand romancier chrétien anglais, mais disait, il n'y a pas un centimètre carré qui soit neutre. Chaque centimètre carré, chaque dixième de seconde est combattu par l'ennemi, mais aussi revendiqué par Dieu. Donc, cette idée d'une terre qui est à conquérir, c'est le message de Pessah. C'est pas des conquêtes à la croisade, hein, avec ouais, on est chrétien, on va amener la politique chrétienne. C'est pas ça, parce que la seule façon de dominer, c'est de servir. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. La seule façon de dominer, c'est de servir. Et parce que Jésus s'est fait homme et s'est rabaissé, Dieu lui dit, c'est pourquoi je t'ai levé. C'est pour ça, en tant qu'Église, plus on va servir, plus on va dominer, plus on va servir avec nos dons, plus on va exercer l'influence du royaume là où nous sommes. Mais ça, c'est notre appel. Vous voyez, c'est vraiment notre appel. Alors, cet héritage, il est donné, et je rappelle la parole, décidément ce matin, il y a eu plusieurs choses intéressantes. L'héritage n'est donné, comme par hasard, pas à des enfants, mais à des fils et des filles. C'est tout l'enjeu de l'Épître aux Galates, chapitre 4. L'héritage n'est donné qu'à des fils et des filles. Il n'est pas donné aux enfants. Les enfants, enfants de Dieu, c'est un bon départ, mais il ne faut pas rester là. Et un fils et une fille, c'est quelqu'un qui vit en famille. Sinon, on les appelle comment? On peut les appeler les mercenaires. Et c'est la parabole de Jésus. Hein. Le mercenaire, c'est celui qui va se servir des choses. Il va se servir des onctions. Il va se servir de tout ça, mais il se sert lui-même. Mais le fils, lui, il est venu pour servir les autres. Et la différence de mentalité, elle est phénoménale. Et donc la Pâque, c'est le message par excellence du fils qui se donne entièrement. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné toute autorité. Donc prendre cet héritage, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, parce que c'est un héritage qui est donné aux fils et aux filles. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même, c'est quoi le ciel, etc. C'est quoi le royaume de Dieu? On ne va pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais rappeler que c'est simplement là où Dieu règne, là où est sa présence. C'est ça le royaume de Dieu. Et Dieu veut régner aujourd'hui au travers de sa présence. Quand on chante beaucoup ces chants de Bethel, je suis étonné d'ailleurs de voir, il y a deux hommes actuellement qui marquent bien cette théologie-là. Il y a Bethel, il y a Bill Johnson qui parle de ce ciel, la terre, on connaît les messages. Mais vous avez un théologien aussi actuellement qui s'appelle N.T. White, qui est un théologien anglican qui dit exactement la même chose, autrement, de façon théologique, etc., appuyé. Mais c'est la même chose. Et Dieu est en train de parler que ce ciel, cette vie éternelle dont parle le Seigneur, eh bien c'est cette présence qu'il veut manifester là où tu es, au milieu de nous. Donc voilà, donc le peuple d'Israël, quand il rentrait, il amenait cette présence dans ce tabernacle. Et cette présence ensuite, c'est plus dans un temple, elle est en toi. Et cette présence, elle est dans ta maison parce que chacun de nous, c'est ça le merveilleux, nous sommes des petites maisons, chacun d'entre nous, des petites maisons, des petits temples du Seigneur. Mais la force, c'est quand on est ensemble dans ce grand temple. Et lorsqu'il est dit, par exemple, le salut qui est réservé pour vous dans les cieux, 1 Pierre 4, il y en a qui disent, mais c'est quoi alors ce salut qui est réservé dans le ciel, dans les cieux? Mais le ciel, dans la Bible, c'est jamais la traduction de quelque chose de futur. Le ciel, dans la Bible, nous parle de ce qui est présent. Regardez le texte qu'on a lu, Ésaïe 6. Saint, il a vu le ciel. Est-ce que c'était futur? Non. Il a vu le présent. Il a vu le ciel. Et donc, le ciel, c'est jamais un jour j'irai au ciel. C'est pas ça. Hein. Le ciel, c'est quelque chose qui est présent, qui descend sur la terre. Le ciel, dans la Bible, c'est pas référence au futur, mais c'est l'action de Dieu dans le présent, dans la réalité d'aujourd'hui. Et le salut qui est réservé dans les cieux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est dans le ciel, là, eh bien, c'est appelé à venir sur cette terre avec toi. Et j'avais donné une fois l'exemple, pour ceux qui sont plus visuels, vous avez imaginé un placard, un peu comme un parent qui, la veille de Noël, cache un cadeau dans le placard. Alors, il va le cacher, il va bien le planquer. Et ça veut pas dire qu'à partir du jour de Noël, l'enfant vivra dans le placard. D'accord? Le but, c'est pas de vivre dans le placard pour avoir le cadeau. Le but, c'est prendre le cadeau, le sortir du placard. Donc, le salut qui est réservé dans le ciel, c'est le placard. C'est le coffre au trésor dont a parlé Vito. Et Jésus a brisé ce coffre. Il est disponible. Donc, il faut pas aller au ciel pour avoir les trésors. Il faut les prendre du ciel pour les amener sur la terre. Et c'est pour ça qu'on parle de citoyenneté céleste. Ça ne veut pas dire que notre cité, elle n'est pas ici, elle sera en haut. Non, notre citoyenneté céleste, ça veut dire quoi? C'est que ce qui est céleste doit descendre sur cette terre. Et nous sommes citoyens du ciel, c'est-à-dire amenant le ciel sur cette terre. Donc voyez, le message de Pâques, qui est de prendre la terre, de prendre l'héritage qui est pour nous, c'est vraiment ce passage d'un peuple d'esclaves qui ne pensait même pas qu'il avait un héritage, qu'il en aurait pu en avoir un. Un peuple qui devient conscient de qui est Dieu et de qui il est et de son appel. Et là, c'est extraordinaire. Et alors, on a dans Romains 8, et je termine bientôt, dans Romains 8 qui a été cité encore ce matin, c'est impressionnant tout ce qui a été cité ce matin, c'est le motif de l'Exode. Regardez, l'apôtre Paul dit « La création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Nous avons cette notion de l'Exode pour la création tout entière. Hein. Et le complément du motif de l'Exode qui traverse les chapitres de l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 6, on voit un peuple qui traverse les eaux, c'est le baptême, parallèle avec la mer Rouge, et ainsi il est libéré de l'esclavage, parallèle avec le péché et l'Égypte. Hein. Et il lui est donné non pas la Torah cette fois seulement, mais l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui va conduire dans la terre promise. Et cette terre, c'est le cosmos tout entier. Et ça, c'est ce message de Pâques. Que le Seigneur nous donne de voir ça commence par cette maison. Et que de cette maison, il y a tout qui se fait. Les fils et les filles se lèvent. Dans cette maison, il y a le sang qui est posé. Il y a la mort qui n'a pas d'accès. Dans cette maison, il y a l'annonce de la transmission. Dans cette maison, il y a l'annonce de l'héritage et d'une terre promise. Et dans cette maison, eh bien, c'est la maison de Dieu qui veut s'étendre jusqu'au cosmos tout entier. 1 Corinthiens 15, « Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Le message de Pâques, c'est pas une attente béate des fruits de la résurrection. Le message de Pâques, c'est parce que Jésus est ressuscité, on travaille. C'est-à-dire qu'on ce travail de la foi, cette mise au service de nos dons, parce que ce travail, dit l'apôtre Paul, il ne sera pas vain. Et comme il a été dit encore ce matin, je crois que c'est Manuela, tout travail que tu fais, inspiré de l'Esprit, inspiré de Dieu, est quelque chose qui va durer éternellement. Le feu passera, il ne va pas pouvoir consumer. Tout ce que tu auras aimé, les choses que tu auras aimées, les gens que tu auras aimés, l'amour avec lequel tu auras vécu, il passera. Il passera au travers de ce renouvellement de toutes choses. Il passera par le feu. Donc, ces choses-là sont importantes. Je crois qu'en tant que Josué, le message de l'église de Josué, c'est de prendre ces terres. Nous sommes, et pour ça, il faut être fils et fille. Et pour ça, il faut aimer la présence de Dieu comme Jésus l'aimait dans le tabernacle, dans la tente. Et pour ça, il faut avoir cette vision d'un héritage qui n'est pas seulement céleste, ou qui est céleste, mais ça veut dire qui devient terrestre. La foi en la résurrection, elle suppose une période de vie. C'est pas de la désincarnation. La résurrection de Jésus, quand il est ressuscité, vous pouvez le toucher. Il est venu manger. Il est venu, il était corps. Eh bien, le message biblique de la Pâque, c'est cette résurrection qui est corporelle. C'est-à-dire, Dieu souligne tout ce qui est terrestre, il souligne tout ce qui est corporel, tout ce qui est incarné. Et je termine en disant, la vision de Josué, rappelez-vous, est une famille qui célèbre le Seigneur, manifeste son amour et incarne son royaume. Et dans le mot « carne », c'est le mot « prendre corps ». Et ça, c'est l'autre espérance chrétienne qui n'est rien de vaporeux, mais quelque chose de très concret aussi. Parce que l'héritage que Dieu a pour nous, il est vraiment concret. Pour nous, et pas seulement pour nous en tant qu'individus, mais pour nous en tant que corps. Alors Seigneur, merci pour cette maison que nous formons tous ensemble. Merci pour cette maison qui est le sang de l'agneau qui est sur cette maison, sur toutes nos maisons ici, toutes nos familles, non pas seulement pour nous protéger, mais pour qu'on puisse pleinement rentrer dans un héritage qui est le nôtre. Merci pour ce message de la résurrection, pour le Saint-Esprit qui vit en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit en nous. Et il nous pousse et il nous conduit vers cette terre promise pour chacun. Seigneur, je te bénis pour la terre que tu nous as donnée, la terre de France, la terre d'Alsace, la terre de la francophonie. Seigneur, merci. La terre de nos enfants, la terre des cœurs, de ceux qu'on aime. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour l'esprit de résurrection. Fais de chacun de nous ce peuple qui, comme au temps d'Israël, était ordonné, chacun à sa place, chacun connaissant ses talents, qui il était, pour rentrer en ordre dans l'héritage que tu nous as promis. Merci Seigneur, bénis chacun d'entre nous, fais-nous du bien, relève l'espérance Seigneur, et merci pour la belle maison que nous formons. Au nom de Jésus, Amen.